Vous êtes sur les ondes d'Oxygène FM, soyez tous les bienvenus. Dans le cadre des élections législatives, nous recevons les candidates et candidats présents sur la seconde circonscription de l'Ariège concernant, vous l'avez donc compris, ces élections législatives. Et nous voterons d'ailleurs un dimanche prochain pour le premier tour. Mon invité aujourd'hui est Enzo Garcia. Bonjour.
Bonjour.
Enzo Garcia, vous vous lancez en politique, vous avez 19 ans et vous vous lancez pour ces élections législatives sur la seconde circonscription de l'Ariège.
Bien, bonjour, comme vous l'avez dit, je suis Enzo Garcia. Donc moi j'ai 19 ans, je suis étudiant, je rentre en troisième année d'histoire. Donc j'ai décidé de me lancer en politique parce que c'est une passion que j'avais depuis tout jeune et j'avais envie de pouvoir porter mes idées, défendre mes convictions. Alors moi je me bats pour régionaliser le pouvoir, c'est-à-dire décentraliser une partie des compétences qui sont à Paris pour que justement ici en région on soit plus proche des décisions et qu'on puisse être plus impliqué dedans.
Ce n'est pas le cas avec la loi NOTRe ?
Non, c'est pas encore assez. À mon sens, c'est un premier pas, une initiation, mais il faut poursuivre cette idée, il faut décentraliser du domaine de compétences de l'Assemblée aux régions.
Alors, quelles seraient les compétences à avoir un peu plus au niveau de la région ?
Notamment sur les finances, pouvoir plus adapter les finances, que ce soit pour les entreprises ou même les impôts, laisser une marge de manœuvre aux régions sur les impôts. Par exemple, ce qu'on lance aux militaires, l'armée par exemple, ça resterait à la compétence de l'État, ça par exemple, puisque c'est une défense nationale. Mais ce qui est des impôts descendrait aux régions, l'emploi, la formation également, laisser beaucoup plus de place à la région pour la formation, que ce soit elle qui gère vraiment l'ensemble de la chose. Aujourd'hui, c'est réparti entre les communes, les départements, la région. Donc centraliser vraiment autour de la région et aussi des communes qui auraient plus de pouvoir, instaurer aussi également un référendum. On est un parti politique parce qu'il faut en être un pour pouvoir se lancer, mais chacun derrière a ses idées, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont un peu plus, on va dire, de gauche, d'autres de droite, du centre. Voilà, c'est pas une gauche-droite, c'est vraiment tout le monde peut en être.
Et vous êtes de quel côté ?
Alors moi, je suis plus à gauche, je me sens un peu plus socialiste, le socialisme, le vrai socialisme. J'ai grandi entre Pamiers et Foix, voilà, j'ai déménagé, j'ai vécu pendant 10 ans à Pamiers à peu près.
Pour votre première campagne, comment ça se passe alors ?
Honnêtement, c'est un rythme à tenir quand même. Je vous avoue que c'est un peu compliqué pour une première, mais ça va, c'est super intéressant. On apprend énormément de choses et ouais, c'est très enrichissant.
Alors parlons maintenant du regard que vous portez sur cette seconde circonscription. Selon vous, quels sont les problèmes à soulever ?
Ben, le premier problème que je soulève, c'est le médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Shiva, c'est très problématique. On a des services en grève parce que les soignants n'en peuvent plus. La tarification, l'activité qu'on impose aux hôpitaux maintenant depuis 2008, je crois que ça a été validé, fait que les budgets et les restrictions de personnel sont insupportables pour ces personnels, donc déjà leur redonner des moyens. Et d'autre part aussi les déserts médicaux, puisqu'aujourd'hui quand on habite peut-être dans un petit village, on n'a pas forcément un médecin à côté, ça peut être très compliqué pour des personnes âgées par exemple, qui ne sont pas forcément en possibilité de conduire. Donc il faut mettre en place des primes pour pousser les médecins à s'installer dans les campagnes.
Les inciter à venir en campagne.
Exactement.
Il y a aussi l'emploi aussi en Ariège ?
Exactement, l'emploi. Donc je voudrais raffermir le code du travail qui a été quand même, je pense, assez abîmé pendant le précédent quinquennat. Donc remettre en place des emplois stables pour les gens qui puissent avoir un avenir, pouvoir prendre peut-être un prêt pour acheter leur maison ou autre, qu'ils puissent voir sur l'avenir. Et deuxièmement, sur l'insertion des personnes au RSA, une de mes idées serait que les personnes qui le demandent actuellement, donc pour pas créer un trop gros flux de personnes qui seraient engagées, doivent remplir une mission auprès d'une association reconnue d'utilité publique, auprès d'une fondation ou auprès d'un service de l'État. Ce qui permettrait, dans un premier sens, de les pousser à se remettre dans le milieu de l'emploi, à rencontrer des gens. Et d'autre part, de redonner à des associations qui, depuis la crise du Covid-19, sont totalement en manque de bénévoles, de leur donner le pouvoir de remettre en place leurs actions.
Et du coup, cela semble assez similaire avec ce que propose Emmanuel Macron sur les 20 heures, concernant le RSA, justement.
Alors moi, mon idée, ça serait peut-être 10 heures, un peu moins. Mais après, oui.
Mais vous êtes sur le même concept.
Exactement. C'est-à-dire que je prends des idées aussi là où elles sont. C'est-à-dire que c'est pas parce que Monsieur Macron, je suis pas totalement d'accord avec lui, que je vais me refuser quand on a les mêmes idées.
Tout à fait. Concernant la mobilité aussi, vous avez 19 ans, vous l'avez vécu, qu'en pensez-vous ?
Oui, tout à fait. Quand on habite à Toulouse, on se rend compte qu'effectivement, les transports ici à Pamiers, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il faudrait bien sûr mettre plus de transports en commun à disposition des gens, parce que d'une part, c'est plus écologique et ça facilite la vie aux gens et aux jeunes aussi beaucoup, qui n'ont pas de voiture. Et d'autre part, les rendre gratuits pour les moins de 18 ans et gratuits pour les étudiants. Ce qui permettrait aux étudiants qui sont déjà notamment en situation financière délicate d'avoir ça en moins sur leur charge.
Vous êtes élu député, Enzo Garcia. Quelles seront vos priorités pour nous ici en Ariège ?
La priorité, la première, ce sera la santé, bien sûr, parce que je l'ai vécu, je l'ai vu, voilà, c'est très compliqué. La deuxième, ça sera la jeunesse. La jeunesse, donc augmenter les bourses du CROUS de 25%, ce qui représenterait pour les plus hauts échelons vraiment quelque chose de très important, pour les plus petits quelque chose de moindre, mais ça permettrait justement aux personnes les plus fragilisées d'avoir le plus en plus d'aide possible. Deuxièmement, ça serait la décentralisation. C'est-à-dire initier dès à présent un débat sur est-ce qu'on pourrait pas donner un peu plus de compétences aux régions et aux communes. Donc pour ça, je m'appuierai sur l'article 1 de notre Constitution qui dit que la France est une république décentralisée.
D'autres personnes qui se lancent aussi, je le suppose, en tant que régionaliste. Combien vous êtes, du coup ?
Tout à fait. Ben écoutez, nous, on représente au total avec notre fédération, la Fédération des Pays-Unis, à peu près 200 candidats. Sur toute la France, donc c'est quand même assez énorme pour des partis, des petits partis. Voilà. Mais après, le régionalisme, je pense, il y en a aussi avec d'autres partis, donc je pense qu'on peut couvrir à peu près toute la France et chacun peut voter régionaliste chez lui.
En parlant de cela, justement, que pensez-vous là du fonctionnement ? Donc, pour vous, la région n'a pas assez de compétences. Pourtant, il y a eu la loi NOTRe. Donc, on le disait tout à l'heure, pour vous, c'est quand même un pas, une avancée. Mais il faudrait malgré tout décentraliser. Il faudrait malgré tout donner un peu plus de compétences aux régions qui sont au plus proche de nous et non pas que les décisions soient prises que de là-haut. Quel regard vous portez sur la politique en général ?
Je pense qu'aujourd'hui, la politique, étonnamment, le métier de politique, qui n'est pas un métier, mais c'est une façon de parler, est énormément critiqué, mais parce que certains ont abusé de leur fonction, on peut le voir encore aujourd'hui. Mais je pense que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, la France est un pays qui est énormément politique, c'est-à-dire que c'est le fondement de notre République depuis toujours. On a eu des députés. Donc je pense que c'est pas un mauvais système. Il faudrait juste peut-être redéfinir les cadres, réviser la façon dont on voit la chose. Mais je pense que c'est pas une mauvaise chose, la politique. Je pense que c'est la meilleure façon même de se battre. Parce que, comme l'a dit Monsieur Édouard Philippe à Monsieur Mélenchon, nous continuerons à être opposés, mais nous continuerons à nous battre dans cette assemblée sur les idées. Et il me semble que c'est le plus important.
Qui est votre suppléante ?
Alors, Thémy Steinberg, voilà, donc c'est une camarade de l'université qui, elle, a 18 ans, donc encore plus jeune que moi. Donc, on est peut-être le binôme le plus jeune sur cette élection, j'en suis pas sûr, je vais pas dire de bêtises. Mais une étudiante aussi qui, elle, rentre en deuxième année de licence de chinois. Donc, voilà.
Pourquoi avez-vous choisi l'histoire ?
Parce que pour moi, ça a toujours été une passion. Et je vous avoue, quand j'ai eu les vœux sur Parcoursup, pour parler simplement, ben c'est la chose qui m'a attiré le plus. Donc je me suis dit, ben je me lance. J'avais pas forcément les compétences pour, puisque j'avais fait une première technologique, mais ça s'est plutôt bien passé. Voilà, je rentre en troisième année, donc on peut dire que ça va.
Pour le moment, tout roule. Que pensez-vous du mandat précédent du député de l'Ariège ?
Écoutez, je vais essayer de pas critiquer, mais je pense que ça n'a pas été suffisant, que les mesures n'ont pas été assez. C'est important, les mesures qu'il a amenées, et je trouve que ça a été beaucoup de, comment dire, que il y a beaucoup de bruit autour de la France insoumise, mais que forcément, du fait qu'ils soient minoritaires à l'Assemblée nationale, leurs actions ne sont que très limitées.
Et ce sera peut-être le cas pour vous aussi.
Bien sûr. Après, il faudra réfléchir. Peut-être, je sais qu'il y a un groupe régionaliste à l'Assemblée nationale. Je suis moi-même de gauche, donc peut-être ça lie aussi avec la gauche, on verra. Mais le but, on le sait, un député seul à l'Assemblée ne peut pas agir. Donc l'important sera bien sûr de trouver un groupe avec lequel j'aurai le plus d'affinité.
Quel regard vous portez sur cette prise de décision politique menée par le gouvernement concernant l'écologie ?
Honnêtement, je pense que tant qu'on n'imposera pas les choses aux entreprises qui sont responsables de plus de la moitié de la production de CO2 dans le monde et de le plus grand pollueur, ça ne change rien. On pourra toujours nommer un Premier ministre le plus responsable de l'écologie. on ne fera pas avancer les choses. Il faut prendre des mesures concrètes, et ces mesures concrètes, elles ne se prennent pas au niveau du président, elles se prennent à l'Assemblée nationale, ce sont des lois qu'il faut faire passer, et aussi négocier à l'international, peut-être avec l'Union européenne dans un premier temps, et peut-être avec l'ONU, si elle existe encore d'ici quelques années, vu les soucis qu'on rencontre, des nouveaux traités sur l'écologie, puisqu'à mon avis, ça se joue au niveau mondial.
On parlait de la santé tout à l'heure, de désertification médicale. Effectivement, c'est ça. Même à PAMI, on peut rencontrer d'ailleurs des problèmes pour trouver même un médecin. Hein. Justement, il y a eu cette crise sanitaire. Comment vous l'avez vécu?
Alors moi, je l'ai vécu. J'étais étudiant, donc j'étais dans un 20 mètres carrés à Toulouse. Donc autant vous dire que c'était compliqué par moment. Donc j'ai eu la chance d'avoir mes amis avec moi. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, donc c'est pour ça aussi que les psychologues me semblent très importants, les psychologues universitaires notamment. En France, on a un énorme retard là-dessus. Les recommandations internationales, c'est un équivalent de temps plein pour 1500 étudiants, donc c'est un rapport entre le temps travaillé sur la semaine et sur l'année. La recommandation internationale, c'est 1500 étudiants pour un temps plein travaillé. En France, on est à 30 000 étudiants pour un temps plein travaillé. Même les États-Unis sont au-dessus de nous, ils sont à 1588 ETP pour un étudiant.
C'est pas suffisant.
Clairement pas, enfin on le voit aujourd'hui. Et aussi le coût des soins psychologiques, on sait que ça coûte cher quand on est étudiant, est-ce qu'on a les moyens de se payer une séance? C'est pas sûr. Donc mon objectif aussi, c'est de rendre gratuit les soins pour les étudiants, et après bien sûr un jour si c'est possible, mais ça coûtera beaucoup plus cher pour tout le monde, parce que c'est important, tout le monde a besoin d'avoir une bonne santé mentale. Et donc pour les étudiants, je commencerai par le faire financer par les excédents du fonds de la CVEC. On sait que certains fonds de la CVEC sont excédentaires, donc commencer graduellement par le financer par ce biais. Si on voit que ça marche, il y a beaucoup de demandes, voir d'autres moyens de le financer.
Pendant cette crise sanitaire, il y a eu l'instauration du pass sanitaire et ensuite vaccinal. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, je pense que il faut réfléchir sur le collectif. Cette maladie, il y a eu des morts. Donc, il y a des moments où le gouvernement a mal réfléchi quand on nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de masque, alors qu'en réalité, il en fallait, par exemple, c'est une erreur. Le pass vaccinal, le pass sanitaire, à mon sens, n'est pas une erreur. Il a peut-être été un petit peu trop prolongé ou peut-être envoyé au mauvais moment, mais pour moi c'est une bonne idée, parce qu'il faut pousser les gens à se vacciner, et c'est normal pour moi, je pense, de faire attention au collectif, c'est-à-dire que j'ai pas envie que ma sœur l'attrape, que quelqu'un d'autre l'attrape, et que ce soit qu'il en meure ou qu'il ait des séquelles. Donc ça me semble important qu'on crée une immunité collective.
Même si finalement être vacciné permet malgré tout la contamination et la contagiosité.
Exactement, ça diminue les chances. C'est pas un vaccin parfait, on le sait, la science ne veut pas tout faire non plus. Il est loin d'être parfait, mais ce vaccin diminue les chances d'être malade, ça diminue les chances de contagion. Donc je pense qu'il faut quand même se faire vacciner.
Quelles sont pour vous les qualités pour être un bon député? Enzo Garcia, je le rappelle donc, candidat sur la seconde circonscription de l'Ariège pour les élections législatives, candidat régionaliste. Enzo Garcia, selon vous donc, quelles sont les qualités pour être un bon député?
Je pense que la première qualité, c'est d'être honnête, c'est-à-dire dire aux gens, écoutez, je vais faire ce que je peux pour réaliser ce que je vous ai dit. Je vous garantis pas que ça sera demain, ni après-demain. Mais je vous garantis que je vais tout faire pour que ça arrive. Et je vais tout faire, me battre, pour que votre situation s'améliore. Pour moi, c'est la première des choses. C'est-à-dire être honnête et se battre pour ce qu'on a dit. La deuxième, c'est d'essayer de rester, enfin c'est dans la même continuité, mais de rester dans ses idées, mais de comprendre aussi que par moment, il faut faire des compromis. C'est-à-dire, on aura peut-être un peu moins d'aide que prévu, mais on va les avoir. C'est-à-dire qu'une victoire est une victoire.
Comment vous l'amenez cette campagne?
Écoutez, j'ai pas fait de réunion publique parce que c'était trop compliqué encore pour moi. Ma candidature est assez récente, donc j'ai pas eu le temps de réserver de salle ou quoi. Mais beaucoup les marchés dans la rue, voilà, voir les gens, en fait, discuter avec eux, ça me semble le principal.
Et qu'est-ce qu'il en ressort de cette discussion?
Je pense que les gens ont l'air fatigués de tout ça, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression que rien ne change, rien n'avance. Et quand on parle avec eux, alors étonnamment, j'ai discuté avec d'autres collègues qui sont avec moi sur leur campagne, qui me disaient, bon, pour l'instant, on n'a pas trop de colère. Il y a des gens qui sont en colère contre les politiques, mais les gens ne s'énervent pas sur nous. Peut-être parce qu'ils sentent aussi qu'on a un projet différent. Mais beaucoup de colère contre la politique, et les gens ont vraiment envie qu'on les soutienne et qu'on aille dans leur sens pour les aider.
les aider et surtout pouvoir améliorer notre cadre de vie, parce que effectivement là, concernant cette inflation, ce pouvoir d'achat, on rencontre énormément de difficultés par rapport à ça. Vous avez pu avoir des retours à ce sujet aussi?
Oui, exactement. Et surtout, enfin, moi, personnellement, en tant qu'étudiant, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, ben, j'ai du mal à boucler les fins de mois. Et même ici, c'est pareil, en Ariège, avec des gens de 40, 50 ans, 60 ans, des retraités, bien sûr, parce que les retraites, on le sait, sont plutôt faibles. Donc, il faudrait, déjà, réaugmenter le SMIC. Ça me semble prioritaire, puisqu'aujourd'hui, les gens ne touchent quasiment plus rien, comparé à ce que coûtent les choses.
Au niveau de la vie.
Exactement. Le coût de la vie énorme aujourd'hui, on le voit, 8 euros pour une bouteille d'huile de tournesol, je trouve ça aberrant. Bon, donc du coup, on ne peut pas faire baisser les prix dans un sens, puisque ça ne dépend pas forcément de nous à l'Assemblée. Mais par contre, augmenter le salaire, ça c'est la loi qui le dit, c'est augmenter le SMIC, c'est la loi qui le dit, donc je pense que c'est prioritaire de le faire.
Et concernant cette réforme des retraites proposée par le gouvernement à 65 ans?
Je pense que c'est surtout une question, de façon dont on voit la chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui font des études, en fait. Donc, pour cotiser 40 ans, au final, quand on sort à 23, 24, 25 ans de ses études, on cotise 40 ans, on arrive à la retraite à 65 ans. Donc, je pense que c'est une façon de l'amener. Et peut-être l'adapter aussi pour les personnes qui ne font pas d'études et autres. Il y a une question d'adaptation. Mais je pense que l'idée en soi n'est pas nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui finissaient leur retraite même au-dessus de 65 ans, parce qu'ils n'avaient pas cotisé les années suffisantes.
Enzo Garcia, il vous reste maintenant quelques secondes pour les auditrices et les auditeurs d'Oxygène FM qui nous écoutent en ce moment. Enzo Garcia, candidat régionaliste sur la seconde circonscription de l'Ariège. Je vous laisse le choix de vous exprimer, la liberté de vous exprimer pour ces quelques secondes restantes.
Écoutez, j'ai envie de dire, le projet que je porte, c'est l'Ariège de demain, donc c'est une idée nouvelle, une équipe jeune, bien sûr sans renier bien sûr les idées du passé, mais avancer, on va dire, avec la fougue de la jeunesse. Donc moi, c'est un projet régional que je porte, donc c'est-à-dire vous rapprocher le pouvoir des gens, mais c'est aussi un projet social, c'est-à-dire redonner des moyens aux gens, augmenter les aides, redonner des accès à la santé, faciliter les transports en commun et un programme aussi écologique. Voilà. Donc j'ai envie de dire, si vous êtes d'accord avec ces idées-là, allez voter dimanche pour bâtir Occitanie.
Merci.
Merci.